Bonjour à tous et à toutes. Merci pour ce moment béni que le Seigneur nous a accordé pour pouvoir écouter et méditer sa parole. Frères et sœurs, comme vous le savez, dans certaines cultures, les veuves ont un statut social lourd à porter, très lourd à porter. Elles sont rarement considérées dans la société. Et pourtant, dans la Bible, Dieu leur accorde un grand honneur. Dieu leur accorde une grande importance pour leurs actes de foi et d'obéissance envers l'Éternel. Elles sont vraiment pour nous un exemple à suivre. Et souvent, dans la Bible, leurs noms ne sont pas mentionnés. Pourquoi? Parce que ce qu'elles ont fait est plus important que leur nom. Et souvent, ces veuves portent le nom de l'endroit où elles habitaient. Elles portent le nom de leur ville ou de leur village. Et c'est le cas de notre méditation de ce matin. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, le verset 8 à 16. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Roi 17. Un roi, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas encore trouvé, on attend que tout le monde trouve le passage. C'est juste après 2 Samuel. Il y a 1 Samuel, 2 Samuel, après un roi. Repérez Samuel, après 2 Samuel, c'est un roi. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 17, le verset 8. Alors la parole de l'Éternel fit adresser à Élie en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu verre d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Élie l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. » La veuve répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre. Fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Le verset 15, la veuve alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. C'est la parole du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Ouvre nos yeux, nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions entendre que ta voix. Prépare nos cœurs afin de recevoir ta parole, non comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Fortifie-moi, Seigneur, ton humble serviteur, et purifie toutes choses en moi, car ta parole est sainte. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, le titre de notre message de ce matin, c'est Élie, bien entendu le prophète Élie. Élie et la veuve de Sarepta. Élie et la veuve de Sarepta. Ce passage que nous venons de lire se situe entre deux événements. Le premier événement va du verset 1 jusqu'au verset 7, bien entendu du chapitre 17. Le premier événement va en chapitre 17, verset 1 à 7, où le prophète Élie dit au roi Akab qu'il y aura une sécheresse dans le pays par ordre de l'Éternel. Il n'y aura ni rosée, ni pluie. Et c'est au milieu de cette sécheresse qui a duré 3 ans et 6 mois que Dieu réunit Élie et la veuve de Sarepta. Et le deuxième événement se situe toujours dans le chapitre 17, mais elle va du chapitre, du verset, pardon, 17 jusqu'au verset 24. Et là, Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Il ressuscite le fils de la veuve d'entre les morts, parce qu'elle était tombée malade et elle était morte. Et Élie a prié l'Éternel et ce fils est revenu à la vie. Voilà d'où se situe ce passage, entre les deux événements. Et ce passage se situe juste au milieu. Le titre de notre méditation, comme j'avais dit, Élie et la veuve de Sarepta. Nous avons lu que l'Éternel Dieu dit à Élie de se rendre à Sarepta, car il avait ordonné à une veuve de le nourrir. Et la pauvre veuve ne savait rien de ce que Dieu a dit à Élie. Sarepta, c'est un pays de Jézabel. Nous connaissons tous Jézabel. Jézabel était la reine. Le roi, c'était Akab. Sarepta, c'était une ville païenne, remplie d'adorateurs de Baal, une terre d'idolâtrie. Une terre où il y avait plein d'idolâtres, Sarepta. Et c'est là que Dieu a choisi d'envoyer son prophète, le prophète Élie. Alors on peut se poser une question. Pourquoi Dieu a envoyé son prophète, pourquoi Dieu a envoyé Élie vers cette pauvre veuve? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas de veuve en Israël qui avait besoin, qui avait un besoin aussi tout grand que cette veuve? Pourquoi? La nation d'Israël, si vous lisez la Bible, à partir du chapitre 16, vous verrez que la nation d'Israël faisait face à la sécheresse et à la famine. Parce que Dieu avait ordonné cela. Il avait dit à Élie de proclamer cela et il y a eu une sécheresse. Et il y avait la famine. Et Israël faisait face à cette sécheresse et cette famine. Mais Israël faisait face aussi à la sécheresse et à la famine de la parole de Dieu. À cause de leur incrédulité, à cause de leur indifférence, Dieu envoya son prophète hors Israël. C'était une forme de jugement envers son peuple. Et c'est ce qui arrive, frères et sœurs, quand une nation se détourne de Dieu. Et voici ce que la parole de Dieu dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à propos de cela. Dans Luc chapitre 4, le verset 25 à 26, ne cherchez pas, je vais lire pour vous. Luc chapitre 4, le verset 25 à 26 à 27, la parole de Dieu dit ceci. Je vous le dis en vérité, aucun prophète, à partir du verset 24, n'est bien reçu dans sa patrie. Le verset 25, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Ah oui, c'est à cause de leur incrédulité. Dieu n'a pas voulu envoyer Élie vers le veuve ou vers une veuve d'Israël, mais il a envoyé Élie vers une veuve dans une nation païenne, Sarepta. Et ce matin, nous voulons considérer, frères et sœurs, trois pensées pour notre méditation de ce matin. La première pensée, c'est l'obéissance d'Élie. La deuxième, c'est le désespoir de cette veuve. Le désespoir de la veuve. Et la troisième pensée, la foi et l'obéissance de la veuve. Trois pensées. Et la première pensée, l'obéissance d'Élie. La parole de l'Éternel, comme nous le lisons, fut adressée à Élie en ces termes. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Le verset 8 à 9. Cette parole de l'Éternel à Élie nous relève, ou nous révèle plutôt, deux points essentiels. Premièrement, nous voyons la fidélité de Dieu dans ce que Dieu a dit à Élie. Nous voyons la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis à Élie de subvenir à ses besoins. C'est ce que Dieu avait dit à Élie. Si nous remontons un tout petit peu, toujours au chapitre 17, mais à partir du verset 3, ou à partir du verset 2, nous lisons ceci, le chapitre 17. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces termes. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. C'est Dieu qui avait envoyé Élie se cacher parce qu'il était poursuivi. Nous connaissons tous l'histoire. Et il est allé se cacher près de ce torrent. Mais le problème, le torrent s'est asséché, le torrent est à sec. Il n'y avait plus d'eau. Alors l'Éternel revient vers Élie. L'Éternel vient à son secours. Oui, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Et nous voyons par là la fidélité de Dieu. Quand il dit quelque chose, Dieu le fera. Il avait dit à Élie qu'il prendra soin de lui, que c'est lui qui va subvenir à ses besoins. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. Dieu revient vers Élie. Nous voyons d'abord, la fidélité de Dieu. Et deuxièmement, dans cette parole de l'Éternel à Élie, nous voyons aussi la confiance d'Élie en Dieu, en l'Éternel. La confiance d'Élie en l'Éternel. Pourquoi? Parce que Élie resta là, près du torrent, à sécher, bien qu'il n'y avait plus d'eau à boire. Élie resta près du torrent, à sécher, comme s'il était abandonné par Dieu, parce qu'il n'y avait plus rien à boire. Dieu a dit, reste là, tu boiras l'eau du torrent. Maintenant, il n'y a plus rien sur le torrent. Le ruisseau est à sec. Même si cela pourrait signifier sa mort, mais Élie resta là, près de ce torrent, à sécher. Élie n'a pas couru à droite ou à gauche. Il n'a pas cherché une autre solution. Il n'a pas manifesté de mécontentement. Mais il est resté fidèle au Seigneur et compté sur lui. C'est pour cela que nous disons que nous voyons la confiance d'Élie dans ce passage. Dieu ne l'a pas oublié. Parce que Dieu savait exactement où Élie se trouvait. Et Dieu savait tout sur ce torrent qui était asséché. Mais Dieu avait aussi un autre plan pour son serviteur, pour son prophète. Élie s'est confié à l'Éternel et a attendu près de ce torrent asséché jusqu'à ce que le Seigneur lui parle à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Comme Élie s'est confié en l'Éternel, il s'attendait de l'Éternel, il s'est confié en lui. Et Ésaïe 40, le verset 31 nous dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvelons leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatigue point. Voilà ceux qui se confient à l'Éternel. C'est la parole de Dieu qu'il dit. Ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. C'est ce qu'a fait Élie. Parce qu'il s'est confié en l'Éternel. Et au verset 9 que nous avons lu, l'Éternel dit maintenant à reviens vers Élie et lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dans ce verset, dans ce que Dieu a dit à Élie, nous voyons qu'il lui a donné trois commandements et une promesse. Et les trois commandements, va, d'abord commence par lève-toi, va et demeure là. Voilà les trois commandements qu'il a donné à Élie. Lève-toi, va et demeure. Frères et sœurs, dans chacun de ces commandements, il y a un test de foi et d'engagement pour Élie envers l'Éternel. C'est un test de foi. L'Éternel lui dit, lève-toi, il doit se lever. Va, il doit partir et demeure là. C'est un test de foi, de confiance, d'engagement pour Élie envers l'Éternel. Parce que avant de pouvoir avancer dans la volonté de Dieu, nous devons nous lever. Non seulement physiquement, mais nous devons nous lever aussi spirituellement, frères et sœurs. Dans ce sens que nous devons suivre le Seigneur dans l'obéissance. Et Élie a obéi à ce commandement, à ce que le Seigneur lui avait dit. Et la promesse, le Seigneur lui a fait cette promesse. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors, quelle a été la réponse d'Élie? La Bible nous dit, alors il s'éleva et il alla vers cette veuve. Élie n'a pas posé de questions, pas d'excuses, pas de plaintes, pas de murmures, juste il a obéi. Nous voyons l'obéissance d'Élie là. Juste il a obéi. Mais le problème, il a obéi. Il doit faire face à une nouvelle épreuve difficile de la foi. Et cette épreuve, il doit aller chez une veuve inconnue. Il ne connaissait pas la veuve. Il devait aller vers une, chez une veuve inconnue. Il ne savait pas qui elle était. Mais avec cette confiance, la foi qu'il avait en Dieu, Élie a fait confiance au Seigneur. Pourquoi il a fait confiance au Seigneur? Parce que l'Éternel connaissait cette veuve. L'Éternel connaissait cette veuve. Et pour Élie, cela était plus que suffisant. Moi, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, cette veuve. Mais puisque l'Éternel me dit, je dois aller vers cette veuve, je vais y aller. Parce que je sais que l'Éternel connaît cette veuve. Et cela a rassuré Élie. Et cela était suffisant pour Élie. Oui, le Dieu qui avait envoyé les corbeaux pour apporter à Élie le pain et la viande matin et soir, quand il s'est caché près du torrent, c'est le même Dieu qui a ordonné à Élie d'aller vers cette femme, cette pauvre veuve, qui a ordonné à cette veuve, cette femme veuve, de les nourrir. Près du torrent, il était nourri par le corbeau. Maintenant, Dieu dit, tu vas être nourri par cette femme veuve. Frères et sœurs, les circonstances ont changé, mais Dieu n'a pas changé. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Les circonstances pour lui ont changé pour Élie. Il n'est plus près du tombeau, maintenant il va aller à Sarepta. Il va être là-bas, chez la veuve. Les circonstances ont changé. Et c'est le même Dieu qui a changé les circonstances. Les circonstances ont changé, mais Dieu n'a pas changé. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même lorsqu'on ne comprend pas, frères et sœurs, le pourquoi de certaines choses, la foi obéit simplement à Dieu. La foi obéit simplement à Dieu. La vraie foi, c'est que Dieu est plus grand que ce que l'œil peut voir. C'est ça la vraie foi. Dieu est plus grand que ce que nos yeux peuvent voir. Voilà l'obéissance d'Élie dans ce que le Seigneur, l'Éternel, lui avait dit. Le deuxième point, c'est le désespoir de la veuve. Quand Élie arrive à Sarepta, il découvre que la veuve était dans une extrême pauvreté. Dieu ne lui avait pas dit quelle veuve prendra soin de lui, ni comment il la trouverait. Mais Dieu a arrangé les choses à sa manière, à sa façon. Et cette veuve, d'après ce que nous avons lu, n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle était si pauvre qu'elle n'avait même pas de bois, de combustible pour cuisiner un maigre repas. Elle n'avait rien, rien du tout. Extrêmement démunie. Elle devrait sortir ramasser du bois. Et quand Élie l'a vue, Élie s'est rendu compte et Élie sait maintenant que cette pauvre, cette veuve, cette femme était une pauvre veuve. La Bible dit que Élie l'appela et lui dit, « Apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Quelqu'un qui n'a rien, mais on lui dit, « Apporte-moi quelque chose à manger de ta main. » Sur un certain, frères et sœurs, cette demande d'Élie, d'après les textes, à réveiller les douleurs dans le cœur de cette veuve. Elle ne pouvait plus cacher sa souffrance. Et ces paroles que nous avons lues, les paroles de la veuve, montrent qu'elle était non seulement pauvre, mais désespérée. Non seulement pauvre, mais désespérée. Parce que nous lisons verset 12, « Je n'ai rien cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Après quoi, nous mangerons, après nous mourrons. C'est tout ce qui lui reste. Et comme il y avait la sécheresse, il n'avait plus rien. Nous mangerons et nous mourrons. Ces paroles ne parlent que de la détresse. Que de la détresse. Les yeux de la veuve ne voient que la misère. Elle est au bout de ses ressources, frères et sœurs. Vous savez, mettons-nous un peu à la place de cette pauvre femme. Vous avez perdu votre mari. Vous avez eu la grâce d'avoir un fils que vous aimez tant. Et maintenant, elle pense qu'elle va préparer son dernier repas avant qu'elle et son fils ne meurent. Imaginez sa douleur. Imaginez sa douleur. Frères et sœurs, nous n'avons jamais été confrontés à une telle situation. Mais ce que nous savons, nous vivons tous des situations difficiles. Oui, soyons honnêtes. Nous vivons parfois des situations difficiles qui nous paraissent parfois sans espoir. C'était le cas de cette veuve. Il avait une situation difficile et il n'y avait plus d'espoir. Et dans ce monde, dans notre vie chrétienne, dans ce que nous vivons, des fois nous faisons face à ce genre de situation. Cette veuve, frères et sœurs, n'était pas le genre de personne vers qui on peut se tourner pour obtenir une aide. Disons les choses comme elles sont. Et comme on dit dans le monde, ah, Dieu n'a pas fait le bon casting. Mais si, Dieu a fait le bon casting. Pour Dieu, c'était le genre de personne qu'il fallait. Mais pour nous dans le monde, en voyant cela, nous disons, ce n'est pas le genre de personne vers qui on peut se tourner pour demander de l'aide. Mais c'était la personne que Dieu avait choisie pour soutenir Élie. C'était la personne que Dieu avait choisie pour être l'instrument de la gloire de Dieu. malgré sa pauvreté. Alors, pourquoi a-t-elle perdu espoir, cette veuve? Elle a perdu espoir parce qu'elle a fixé ses yeux sur le pot de farine et sur la cruche d'huile, au lieu de fixer les yeux sur le Seigneur. Voilà pourquoi elle a perdu espoir. Il a fixé ses yeux sur le peu qu'il lui restait dans le pot de farine et le peu d'huile qu'il restait dans la cruche. À partir de là, la conclusion, je prépare mon dernier repas avec mon fils et nous mourons. Et elle était désespérée. S'il avait fixé ses yeux sur l'Éternel, il n'allait pas être désespéré. Frères et sœurs, des fois, c'est le cas aussi dans nos vies. On se trouve devant certaines situations. On ne voit que la situation, rien du tout. On fixe les yeux sur ce problème-là. Des fois, on ne fixe pas les yeux sur l'Éternel. Et la Bible nous rappelle ce matin que nous devons toujours fixer nos yeux sur l'Éternel. Si nous ne voulons pas être désespérés, fixons nos yeux sur l'Éternel et non sur les circonstances et non sur les situations. Et Élie, après avoir entendu le désespoir de la veuve, il lui apporte une parole de foi et d'espérance. La même parole que la même parole de réconfort que Dieu avait donné à Agar, si vous vous souvenez l'histoire. La même parole. Et cette parole, c'est laquelle? Dans Genèse 21, le verset 17, il est dit ceci, parlant de Agar, pour la parole d'espoir, de réconfort que Dieu a donné à Agar. Dieu dit ceci, Genèse 21, 17. Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Voilà ce que Dieu a dit à Agar. Ne crains point. Et dans 1 Roi 17, le verset 13 que nous avons lu, Élie dit à la veuve: ne crains point. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Ne crains point. L'Éternel a dit à Agar, ne crains point. Élie dit à Agar, ne crains point. C'est une parole de réconfort. C'est une parole d'espérance. Une parole de confiance. Et lui dit, fais comme tu as dit. Élie parle comme si la promesse de Dieu est déjà accomplie. Ne crains point. Voici ce qu'il dit au verset 13. Ne crains point. Prépare-moi d'abord un petit gâteau. Et tu me la porteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Comment ça? Je n'ai qu'un peu là, quand je prépare, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais toi, tu me dis, prépare d'abord pour moi. Après, je vais préparer pour mon fils. Élie, comme on l'a dit tout à l'heure, parle comme si la promesse de Dieu pour lui, Élie, la promesse de Dieu s'est déjà accomplie. C'est déjà accompli. Oui, il sait que Dieu tiendra sa parole. Élie sait que Dieu est fidèle, il accomplira sa parole. Il encourage cette pauvre veuve de mettre de côté sa peur et à simplement obéir à la parole de Dieu. Les circonstances sont contraires, mais Élie s'est appuyé sur la parole de l'Éternel. Et frères et sœurs, ce que nous devons faire dans nos vies, nous appuyer à chaque fois sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, et non sur autre chose. Et non sur autre chose. Les situations sont contraires, donc les circonstances sont contraires. Mais Élie parle comme si la promesse de l'Éternel est déjà accomplie. Va, prépare d'abord pour moi. Après, tu vas préparer pour ton fils. Mais quand je prépare d'abord pour toi, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais Élie se rappelle de la promesse de Dieu. Prépare, parce qu'il y en aura encore et encore. Oui, il invite la pauvre veuve à participer à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Bien que pour le moment, cela reste invisible aux yeux de la veuve. C'était seulement visible dans les yeux d'Élie. Cette espérance, cette foi qu'il avait en Dieu. Mais dans les yeux de la veuve, c'était pas visible. Oui, il invite à participer à l'accomplissement de la promesse de Dieu. La pauvre veuve n'était pas consciente de son rôle dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu et son plan sont au-dessus de ce que nous comprenons. Oui, la volonté de Dieu. Des fois, nous ne comprenons pas. Parce que c'est au-dessus de tout ce que nous ne pouvons penser ou imaginer. Et il n'y a pas de désespoir en Dieu. Alors, Élie lui explique la promesse de Dieu. Il lui dit, au verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de la terre. » Voilà la parole d'espérance. Élie a cru cela, et c'est ce qui s'est passé. Frères et sœurs, nous devons dire les promesses d'amour de Dieu comme Élie l'a fait. Nous devons propager la parole de grâce, la parole de puissance, l'amour de Dieu aux autres, comme Élie l'a proclamé à cette pauvre veuve. Les circonstances ne racontent que ce que nous voyons. Nous ne voyons peut-être pas le bout du tunnel, c'est vrai. Mais nous ne sommes jamais désespérés en Dieu. Élie n'était jamais désespéré en Dieu. Les circonstances étaient pauvres quand il a vu la pauvre veuve. Mais Élie savait ce que Dieu lui avait dit et il s'est appuyé sur les promesses de Dieu. Et le dernier point, frères et sœurs, on va aller un peu plus vite, c'est la foi et l'obéissance de la veuve. La foi et l'obéissance de la veuve. Oui, comment Dieu pourrait-il pourvoir aux besoins d'Élie à travers cette veuve démunie? Comment Dieu peut imaginer ça? Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Beaucoup de personnes se posent cette question quand on médite cette parole. Mais comment Dieu peut pourvoir à partir de quelqu'un qui n'a rien? Frères et sœurs, le comment n'est pas important. Le comment, cette question-là de comment n'est pas important. Dieu veut tout simplement que nous ayons confiance en lui. C'est tout. Parce que quand on partage, quand on médite la parole de Dieu, on se pose beaucoup de questions. Le pourquoi, le comment, le quand. Toutes ces questions, des fois, ne sont pas importantes. Ce qui est important, que nous ayons confiance en lui, en Dieu. Et nous ne devons jamais être surpris des outils que Dieu utilise. Parfois, Dieu utilise des sources et des instruments que nous ne choisirons pas. Parce que nous, à la place de Dieu, pour venir subvenir aux besoins d'Élie, on allait chercher peut-être un riche, bien fortuné. Mais Dieu, non. Dieu a choisi une pauvre veuve. Dans sa volonté, dans sa sagesse, Dieu a choisi une pauvre veuve. Et il a choisi cette veuve pour accomplir sa volonté et pour faire, comme dit la parole de Dieu, infiniment au-dessus de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Oui, pour faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Et cette veuve était convaincue parce que Élie lui avait dit et il a agi avec la grande foi. Il a agi avec la grande foi. Oui, parler de la foi et de l'obéissance de cette pauvre femme va à l'encontre de notre raisonnement humain. Pourquoi? Parce que qui va faire à manger pour un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, lorsqu'il n'y a pas assez de nourriture pour toi et pour ton fils? Qui peut faire cela? Imaginez un inconnu qui débarque de nulle part, qui te dit, mais fais d'abord à manger pour moi, après toi, après. Oh, mais moi, mon fils n'a rien que je fasse d'abord pour toi. Ça, c'est le raisonnement humain. Ça, c'est le raisonnement humain. Qui va faire cela? Mais cette pauvre veuve a obéi. Et nous voyons par là l'obéissance de cette pauvre, la foi aussi de cette pauvre veuve, frères et sœurs. Cette pauvre veuve avait quelque chose qui était précieux. C'est quoi qui était précieux pour lui? Le peu de farine et le peu d'huile qui lui restait. Et le peu qui lui restait, et lui demande de lui offrir, de lui donner. Bien que cela n'était pas grand, grand chose on peut dire, mais ce n'était pas facile pour elle d'obéir à cette parole de l'Éternel, parce que c'était tout ce qu'elle possédait. C'était tout ce qu'elle possédait. Souvenons-nous, frères et sœurs, le cas d'Abraham, quand Dieu lui avait dit d'offrir son fils unique, le fils de la promesse, d'offrir Abraham. C'était la demande la plus difficile pour lui, à laquelle il a dû faire face dans sa vie. Pourtant, Abraham a répondu par la foi. Et c'est là que Abraham a appris, en obéissant, en offrant Isaac. Il a voulu offrir Isaac. C'est là où Abraham a vu que le nom de l'Éternel était quoi? Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Voilà, dans son obéissance, Abraham a appris que l'Éternel est Jéhovah Jireh. Par la foi, Abraham a offert Isaac. Et par la foi, Abraham a obéi à la parole de Dieu. Et par la foi, cette pauvre veuve a offert son dernier repas à Élie. Et par la foi, il a obéi aussi à la parole de Dieu. Et nous voyons plus tard, nous voyons la gloire de Dieu dans la vie de cette pauvre veuve. Nous voyons la gloire de Dieu dans le fait que la veuve a appris à faire confiance en l'Éternel jour après jour. Sa foi s'est renforcée lorsqu'il a vu le Seigneur pourvoir à ses besoins. La Bible dit que le pot de farine et la cruche n'étaient jamais pleins. Mais elle a appris à vivre jour après jour. Chaque jour, cette veuve regardait la dernière goutte d'huile partir. La dernière goutte d'huile s'écoulait dans cette cruche, Mais le lendemain, il y avait encore de l'huile dans sa cruche. Il y avait encore de l'huile dans sa cruche. La farine était toujours au fond du pot et l'huile dans la cruche ne diminua point. C'est ce que dit le verset 16. Si nous lisons le verset 16, il est dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Voilà comment Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de cette femme. Frères et sœurs, faire confiance en Dieu, c'est une expérience de tous les jours. De tous les jours. Le peu qui restait, il prépare. Le lendemain, il revient, il y en a encore. Et dans notre vie, nous devons faire cette expérience avec le Seigneur jour après jour. Jour après jour. Cette veuve était tellement bénie, c'est un peu paradoxal, hein? Elle était tellement bénie dans sa pauvreté. Les païens ne peuvent pas comprendre ça. Dire à quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien diminué, que vous êtes béni. Mais cette veuve était bénie dans sa pauvreté. Et ce n'est qu'à cause de sa pauvreté qu'elle a appris une leçon très précieuse sur l'obéissance à l'Éternel. Elle a appris cette leçon-là, frères et sœurs. Quand tu n'as plus que Dieu, c'est alors que tu prends vraiment conscience que Dieu te suffit. N'oublions jamais que Dieu me suffit. Même s'il reste un peu d'huile, je sais que Dieu me suffit. Et plus tard, nous verrons encore la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de cette veuve. Si vous lisez 1 Roi 17 à partir du verset 23, plus tard, Dieu manifesta encore sa gloire dans la vie de cette veuve. Son fils tomba malade et mourra. Mais Élie pria l'Éternel et son fils fut ramené à la vie. Voilà encore la grâce de Dieu. Frères et sœurs, pour conclure, comme Agar et son fils, cette veuve et son fils n'ont pas été abandonnés ou oubliés par Dieu. Comme Abraham, cette pauvre veuve a offert à Dieu ce qui était précieux et a obéi à la parole du Seigneur. L'Éternel voudrait répondre aux besoins de cette femme. Il voulait que cette veuve dans un pays païen sache que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Dieu était beaucoup plus intéressé à nourrir son âme qu'à nourrir son estomac. Ce n'était pas son estomac qui intéressait l'Éternel, c'est son âme qui intéressait l'Éternel. Qu'il puisse reconnaître, parce qu'il était dans un pays d'idolâtre, qu'il puisse reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu, qu'on puisse adorer, qu'on puisse glorifier. Oui, Dieu honore toujours la foi, parce que la foi honore Dieu. Frères et sœurs, que la foi et l'obéissance d'Élie et de cette veuve soient pour nous ce matin comme un exemple à suivre. Parce que Dieu, comme on l'a dit, honore toujours la foi, parce que la foi honore Dieu. Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ta parole toute puissante. Merci parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Les circonstances peuvent changer, mais toi, tu ne changes pas. Merci pour que nous puissions te faire confiance en toute situation, quels que soient les moments que nous pouvons traverser dans notre vie. Merci que nous puissions reconnaître que tu es le seul vrai et unique Dieu que nous devons adorer, glorifier, magnifier, Seigneur. Merci pour ta parole, que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs et que cette parole puisse porter des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.